Alors, nous allons ce matin faire la lecture du texte de la prédication. Non, je pourrais. Hein? Si je l'allumerais, ça irait mieux. Alors, comme je vous dis, nous allons faire ce matin la lecture du texte de la prédication, si vous voulez bien tourner dans Matthieu 9. Et on va lire les versets 35 à 38. Matthieu 9, verset 35 à 38. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Papa, que ta parole ce matin puisse être vivante dans nos cœurs. Et pas seulement dans nos cœurs, Seigneur Dieu, mais aussi dans nos actions. Que l'on puisse comprendre, Seigneur, combien ton Fils Jésus, lorsqu'il était parmi nous, a été rempli de compassion pour tous ceux et celles qui ne te connaissaient pas. Et Seigneur, cette foule qui était languissante et qui était abattue par ces le monde qui nous entoure, c'est les gens qui autour de nous ne te connaissent pas. Ça peut être des amis, ça peut être de la famille, ça peut être des confrères, consœurs de travail. Alors, Seigneur Dieu, que l'on puisse mettre en pratique ce passage, c'est-à-dire avoir cette compassion pour les âmes perdues, comme Jésus-Christ l'avait, et qu'on puisse faire une différence, Seigneur, dans cette ville, dans Roxbury, Maine, par notre témoignage. Et c'est en Jésus qu'on te prie. Amen. Le verset 36, c'est celui qui nous intéresse ce matin. Quand il vit la multitude, les gens qu'il y avait là, Jésus fut ému de compassion envers eux. Et ce terme-là, le terme grec, qui est traduit par compassion, selon le dictionnaire Strong, ça c'était un dictionnaire des mots bibliques, soit hébreu, soit grec, signifie ceci. Avoir de la compassion, ça veut dire ressentir de la sympathie pour quelqu'un. Avoir de la pitié pour quelqu'un. Être animé d'une tendre miséricorde. C'est la signification que le dictionnaire Strong nous donne du mot compassion. Charles Spurgeon disait que ce terme grec est un terme qui est très remarquable. Le fait est que ce terme a été créé par les évangélistes eux-mêmes, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, dans toute la langue grecque. Et là, on se rapporte au premier siècle. Les évangélistes n'ont rien trouvé. Ils n'ont pas trouvé le mot qui répondait à la signification qu'ils voulaient faire passer, c'est-à-dire dont ils en ont. C'est-à-dire, le mot, il n'y avait pas de signification pour ça. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils en ont inventé un. Et c'est le mot compassion. Ce terme-là, il exprime la plus grande émotion. Et je vais peser sur les mots. La plus grande émotion. Réfléchissez dans votre cœur. Un effort du cœur. Un élancement de pitié de l'âme qui est issu de la nature la plus profonde de la personne. Je vais le répéter. Un élancement de pitié de l'âme. Regardez des fois les images qu'on voit à la télévision, même dans la rue, des fois, c'est... Et ça, c'est issu de la nature la plus profonde de la personne. Ça va chercher que... Le cœur du Seigneur Jésus, il était prêt à éclater de pitié pour la tristesse qui s'étalait devant ses yeux. C'est ce que notre Seigneur Jésus voyait. C'est ce que notre Seigneur Jésus ressentait dans son cœur. Jésus était ému de compassion pour ceux qu'il voyait souffrir devant lui. Et si on devait résumer le caractère de Jésus en une seule phrase, et c'est ce que Spurgeon dit dans son livre « La compassion de Jésus », si on pouvait résumer le caractère de Jésus en une seule phrase, ce serait ceci, « Il fut ému de compassion à leur vue ». Jésus ne se réjouissait pas que ces gens-là s'en allaient en enfer, que ces gens-là étaient perdus. Jésus se réjouissait, pas se réjouissait, mais il avait de la compassion, excusez-moi, pour ces gens-là. Maintenant, pourquoi les évangélistes n'avaient-ils pas trouvé un mot ou des mots dans le langage grec pour décrire le mot « compassion ». C'est une question qu'on doit se poser. Eh bien, je vais vous dire, c'est que dans le monde gréco-romain de l'époque, on n'avait pas besoin d'un tel mot parce que cette émotion-là était étrangère. On ne connaissait pas ce que ça voulait dire avoir de la compassion. Ils ne savaient pas ce que ça voulait dire avoir de la compassion pour quelqu'un. C'était la civilisation de ce temps-là, c'était une civilisation qui avait dégénéré vers une cruauté sans cœur. Et Paul, l'apôtre Paul, hein, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il décrit ces païens-là de l'époque comme étant, regardez bien, sans affection naturelle, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'amour, impitoyable, sans pitié, implacable, c'est-à-dire sans compassion. Et tournez avec moi, ça vaut à peine, dans Romains 1, les versets 29 à 31. Ceux qui n'ont pas leur Bible, bien, on l'a à l'écran. Romains chapitre 1, versets 29 à 31. Et c'est vraiment dérangeant de voir comment Paul s'exprime ici. Regardez bien ce qu'il parle quand il parle des païens. Il dit, au verset 29, « Étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de stupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malice. » Il continue au verset 30, « Rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelle à leurs parents, dépourvu d'intelligence. » Et au verset 31, « De loyauté, dépourvu de loyauté, d'affection naturelle et de miséricorde. » C'était le monde païen de l'époque. C'est ce qui caractérisait, je ne veux pas dire que tout le monde était comme ça, mais c'était une caractéristique du monde païen de l'époque. C'était un monde sans amour, un monde sans pardon, un monde sans pitié, un monde sans compassion. Le docteur Charles Hodge, il a écrit certains commentaires, dans le commentaire qu'il a écrit sur l'Épître aux Romains, il dit ceci, « Aussi sombre que Paul l'écrivait dans sa lettre aux Romains, comme que je viens de lire, là, ce monde était représenté d'une manière encore plus terriblement sombre
par les auteurs grecs et latins les plus remarquables parlant de leurs propres concitoyens, toujours au premier siècle. Les chroniqueurs ont rassemblé une impressionnante et terrible collection de passages des anciens auteurs qui prouvent amplement ce que Paul dit dans Romains. Et si on lit des contemporains de ce temps-là, comme Josephus, et ça, c'est un livre qu'on peut acheter, qui nous parle réellement de... Lui, c'est un païen, puis il regarde le monde à travers le temps. Et c'est justement ce que lui aussi décrit, et plusieurs autres. Donc, dans le message ce matin, mes frères et sœurs, je peux seulement vous rappeler brièvement la dureté de cœur des Romains, de leur cruauté sanglante dans les Colisées, où les foules en frénésie, qui sous l'empire de l'emprise, c'est-à-dire de boissons, exultaient de plaisir lorsqu'ils voyaient les gladiateurs arriver, ou même des jeunes enfants qui se faisaient mettre en pièces par des ours sauvages. Quel spectacle! Puis on était excités par ça. On voulait voir ces spectacles-là. Il y en a qui disaient là, quelle gang de malades! On va voir qu'il y a du monde malade aujourd'hui aussi. Je ne peux pas non plus vous rappeler la pratique habituelle de ces païens-là, d'exposer ou plutôt d'abandonner par... qu'est-ce qu'ils faisaient, eux autres, là? Regardez bien. Ils abandonnaient par milliers des nouveau-nés. C'était des enfants qui étaient nés non désirés, dans la campagne, dans les bois. Et on les laissait là. On les laissait mourir. Et ça nous rappelle aujourd'hui un genre d'avortement, pas d'avortement, mais de... Oui, c'est un avortement, mais du temps, non médical. On se débarrassait de l'enfant, puis on le laissait mourir. Je suis certain que les mamans aussi sont touchées parce que vous avez déjà porté les enfants. Qui abandonnerait son enfant? Mais lorsque Christ est venu, lorsque Jésus est venu sur la terre, tous les nouveaux adeptes du christianisme, les disciples, ils ont sauvé beaucoup de ceux qui avaient survécu à cette cruauté-là dans les arènes. Et ils étaient... Il était au courant, là, puis il allait vers ceux qui avaient besoin d'aide. On a sauvé souvent des bébés qui criaient, abandonnés pour mourir. Ces enfants-là avaient faim, avaient soif, avant d'être mangés souvent par des bêtes. Donc, la compassion de ces premiers chrétiens-là était une chose nouvelle. Quelque chose qu'on ne connaissait pas dans le monde gréco-romain du premier siècle. Et ce fut l'un des grands aspects de cette, en parenthèse, nouvelle religion. On n'est pas de religion. Mais le fait qu'il y ait des chrétiens, des gens qui se convertissent par la foi, qui marchent selon les Écritures, et cela a attiré des dizaines de milliers de personnes dans les églises primitives. Et là, la vie a commencé à changer. Cette cruauté-là, ce paganisme-là a commencé à être dilué par la bonté des chrétiens. Ces premiers chrétiens-là, frères et sœurs, ils avaient appris à avoir de la compassion. Et ils avaient appris cela de Christ lui-même. Maintenant, ce que je veux ce matin, je veux juste faire deux petits points. Inquiétez-vous pas, ce ne sera pas plus long que d'habitude. Deux points qu'on va regarder dans le texte, dans le verset 36, qui concernent notre sujet, c'est-à-dire de vouloir, d'avoir de la compassion assez pour vouloir gagner des âmes à Christ. On va revenir au verset 36. Quand Jésus a vu cette multitude de gens-là devant lui, il fut ému de compassion envers eux. Et ce que je veux faire ressortir ce matin, c'est pour être un gagneur d'âmes, nous devons ressentir ce que Jésus a ressenti lui-même. On doit avoir ce même ressentiment-là dans notre cœur. Avoir de la compassion. Or, je comprends qu'il y en a qui vont dire, « Bon, c'était Jésus. Ben, lui, il était capable. Je suis pas Jésus, moi. » Vous savez, des fois, je me rappelle, dans le temps, on voyait des images saintes avec des personnes avec une auréole jaune au-dessus de la tête. Là. Ça, c'était des saints. Puis je pense qu'on a commencé à mettre ces gens-là sur un piédestal de façon à dire que c'était pas du monde comme nous autres. Mais détrompez-vous. Parce que tous ces gens-là, c'était du monde pareil comme nous autres. Mais ils vivaient par la foi. Ils avaient confiance dans la toute-puissance de Christ. Même confronté comme Daniel dans le fosse où lion, il a fait confiance à Dieu. Ce n'est pas une histoire en dessin animé, ça, là. Ça s'est passé pour le vrai. Je sais qu'on n'est pas Jésus. Mais je sais aussi que si nous sommes véritablement des chrétiens, si on est des enfants de Dieu, le nés de nouveau, on veut prendre Jésus comme modèle parce qu'il est venu pour nous. Jésus est venu pour toi et pour moi. Tantôt, on a chanté « Te ressembler, Jésus ». On a-tu juste chanté ça parce que ça sonne bien, c'est beau. Ou bien, si vraiment on veut ressembler à Jésus. Si je veux ressembler à Jésus, ce verset-là doit être mis en pratique dans ma vie. Je n'ai pas de choix. Je veux te ressembler. Puis ça, c'est ce que chaque chrétien veut. Regardez 1 Pierre 2:21. Le passage, je pense qu'il est à l'écran, oui. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Pierre parle à des chrétiens. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant, quoi? Un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Christ est notre exemple. Christ est notre modèle. On devrait avoir la même attitude que Christ. Paul dit un peu plus loin dans Philippiens 2:5, « Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Pour moi, qu'ils inventent ces paroles-là, c'est dans la parole de Dieu. On devrait tendre toutes nos forces, et j'insiste, toutes nos forces, à penser et à sentir comme le fait Jésus, c'est-à-dire avoir les mêmes sentiments qu'avait Jésus. Et je reviens au passage, quand il a vu cette multitude-là, Jésus fut ému de compassion envers eux. Dans tous les évangiles qu'on appelle synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, ça, c'est les évangiles synoptiques. On peut lire ce qui est écrit au sujet de la compassion de Jésus et sa pitié pour les âmes perdues. Et tous les passages sont à l'écran, mais je vais tous les lire parce que c'est important. Dans Matthieu 14:14, « Et Jésus débarqua et vit une grande multitude. Il fut ému de compassion, encore une fois, envers eux, et il guérit leurs malades. » Ensuite de ça, Matthieu 15, verset 32, « Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, « Je suis ému de compassion envers cette multitude-là. » Je me demande si on dit la même chose lorsqu'on va dans, je ne sais pas, une partie de hockey ou quoi que ce soit, puis on voit tout ce monde-là qui crie comme des perdus. Puis au lieu de dire, ben, c'est une gang de perdus, c'est une gang de malades, ben là, on dirait, ah, oh, je suis ému de compassion pour eux. Matthieu 20:34. Alors Jésus est ému de compassion envers eux, encore une fois. Je vais juste lire les petits passages de Jésus et ému de compassion dans Marc 1:41. Dans Marc 6:34, alors Jésus, étant sorti de la barque, vit une grande multitude. Il fut ému de compassion pour eux. Ensuite, dans Marc 8:2, j'ai compassion de cette multitude de gens, car il y a déjà 3 jours qu'ils ne me quittent pas et ils n'ont rien à manger. Imaginez-vous, les gens suivaient Jésus. Ils oubliaient de manger ou de boire. Puis là, Jésus, il regarde et il dit, j'ai une compassion. Il y en a du monde qui n'ont pas rien à manger et à boire. Peut-être pas ici au Canada, là, mais dans des pays défavorisés. Notre frère Mathieu Grégoire s'en va en Afrique. Il est certain qu'il va rencontrer des personnes pauvres. Dans Luc 7, verset 13, le Seigneur, l'ayant vu, fut touché de compassion pour elle et il lui dit, « Ne pleure pas. » Jésus avait les sens. Je ne peux pas dire le mot « feeling », mais Jésus était humain. C'est ça, merci. Jésus était humain. Sauf le péché. Et le dernier passage, c'est dans Matthieu 9:36, il y avait celui qu'on vient de lire. Quand il vit la multitude, il fut ému de compassion. Ils ont un chant. Je ne sais pas si on a ça. Make me a blessing. Peut-être regardez ça, Marc, ou ceux qui ont Stéphanie. C'est fait de moi une bénédiction. Et les paroles sont je ne connais pas l'air, hein. Mais fais de moi une bénédiction. Écoutez bien les paroles. Là. Fais de moi une bénédiction que Jésus puisse briller à travers ma vie. Fais de moi une bénédiction. Oh, je t'en prie, Sauveur, fais de moi une bénédiction pour quelqu'un aujourd'hui. C'est un beau chant, hein? C'est-à-dire, on ne l'a pas chanté, mais c'est des belles paroles. Fais de moi une bénédiction pour quelqu'un d'autre. En tout cas, si jamais vous trouvez l'air, j'aimerais ça qu'on puisse faire. C'est un vieux chant, c'était en 1880. La personne est morte en 1950, c'est-à-dire le chant peut-être du 20e siècle. Ceux qui gagnent des âmes à Christ doivent ressentir ce que Jésus ressentait. Mais si on ne ressent pas aucune compassion, aucune sympathie, aucune pitié pour les personnes qui sont perdues, et là, faites le tour dans votre tête des gens que vous connaissez, qui ne connaissent pas le Seigneur. J'ai-tu de la compassion pour eux? J'en ai pas. Mais si j'en ai pas, là, il y a peu de chances que je puisse les gagner à Christ. Il y a peu de chances. Deuxièmement, pour gagner les âmes, on doit faire ce que Jésus a fait. Jean, comment est-ce qu'on appelle ça, les babines suivent les bottines?
Les babines suivent les bottines.
OK. Mais, autrement dit, des fois, on parle beaucoup, là, mais on agit peu. Jésus, il ne faisait pas juste ressentir de la compassion pour cette foule-là qui était perdue. Jésus, ce qu'il a fait, c'est qu'il a agi en faveur, justement, des perdus. Il a payé de sa vie. Il est mort sur la croix. Les disciples, ils avaient laissé Jésus, l'histoire, hein, de, vous connaissez dans Jean 4, ils avaient laissé Jésus près du puits de Jacob, en Samarie, pour aller chercher de quoi manger. Et là, Jésus rencontre cette Samaritaine-là, mais enfin, quand les disciples sont venus, Jésus il était entouré de Samaritains en train de leur parler du royaume, puis en train de, ces Samaritains-là, ils étaient en train de se convertir. Hein? Alors, les disciples, ils ont essayé de l'arrêter. Arrête, il faut que tu manges. Il faut que tu te reposes. Mais regardez ce qu'il leur a répondu dans Jean 4, verset 35, 34 et 35. Hein? Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas encore 4 mois, puis vient la moisson. Voici, je vous le dis, levez vos yeux et regardez les champs. Parce qu'ils sont blancs, prêts à être moissonnés. » Jésus, il n'a pas juste eu du sentiment pour cette foule-là, mais Jésus a agi pour cette foule-là. Il est mort sur la croix. Encore une fois, fais de moi une bénédiction. Fais de moi une bénédiction que Jésus puisse briller à travers ma vie. Fais de moi une bénédiction, je t'en prie, Sauveur. Fais de moi une bénédiction pour quelqu'un aujourd'hui. Le docteur John Rice a dit ceci. Maintenant, John Rice est un théologien. C'est assez dur ce qu'il va dire, mais je vais vous le dire quand même. Je vais vous le lire quand même, parce que je l'applique à moi aussi. Le message de l'Évangile demande une compassion naturelle pour les perdus. Le suprême sacrifice du Seigneur Jésus, son amour jusqu'à offrir sa vie, devrait faire fendre notre cœur. Le récit de la manière dont le Sauveur a laissé le ciel. Jésus trônait au ciel. Il est venu dans la pauvreté la plus médiocre. Sa vie de pauvreté, son humanité, la trahison qu'il a endurée, ses grumeaux de sang à Gethsemane, son agonie sur la croix, tout cela, ce sont des thèmes dont on ne peut parler correctement sans ressentir les profondes émotions de l'âme. Quel flot d'amour! Quelle gratitude! Que de sainte dévotion, de service joyeux, n'éveille-t-il pas chez le véritable croyant? C'est ce que Jésus fait. Il faut qu'il réveille en moi, justement, cette compassion-là. On entend souvent les gens du monde dire il y a beaucoup d'hypocrites dans l'Église. Eh bien, c'est ce que John Rice dit, puis il dit, eh bien, j'ai peur de dire qu'ils ont raison. L'un des 12 disciples était un traître. Savez-vous la chose principale qui, plus que tout autre, fait ressembler des chrétiens à des hypocrites? Regardez bien ce qu'il va dire. Je crois que les non-convertis sentent quelque chose qu'ils ne comprennent pas complètement, un quelque chose sur lequel ils n'arrivent pas vraiment à mettre des mots, mais qui ressemble à ceci. Si les chrétiens étaient ce qu'ils devraient être, alors ils ne pourraient rester indifférents à quelque chose d'aussi important que le salut des âmes. Je pense que les gens perdus, où qu'ils se trouvent, partout où ils se trouvent dans le monde entier, ils savent qu'il y a un paradis à gagner et un enfer à échapper. Quand je dis gagner, c'est ce que le monde dit. On sait qu'on ne gagne pas notre salut. Si la mort est l'éternité, le salut est la damnation, sont des termes d'une telle portée qu'ils sont enseignés par l'Évangile de Christ, alors sûrement que chaque enfant de Dieu, né de nouveau, devrait payer, quel qu'en soit le prix, tout ce qui est demandé pour empêcher que les perdus finissent en enfer. Et John Rice a écrit ça dans son livre « The Golden Path of Successful Personal Soul Winning ». Aux yeux du monde, frères et sœurs, l'indifférence, quand il s'agit de gagner des âmes, dénonce les membres des églises comme des hypocrites. Les gens du monde le sentent. Si ces chrétiens dans les églises croyaient véritablement ce qu'ils disent, ils en feraient bien plus pour aider les autres à devenir chrétiens eux aussi. C'est sûrement ce que le monde pense. Nous savons qu'ils le pensent. Ce qu'on a à faire, frères et sœurs, c'est d'enlever ce reproche par un amour et une compassion envers cette multitude de gens-là perdus. Il y en a même qui viennent à nos églises. Mais c'est juste parce qu'ils se sentent bien. Ah, oh, j'ai trouvé le confort ici. Ah, oh, je n'ai pas de compte à rendre. Si on veut renouveler ce vœu-là de dédier notre vie à Dieu dans notre église locale. Laissons faire les autres, là. Parlons d'ici. Je trouve ça dommage que toute église n'est pas ici pour qu'on entende ce que le Seigneur veut nous dire, ce que le Seigneur veut qu'on soit. Je vais vous inviter à vous courber, juste courber vos têtes. Et je vais prier Dieu, puis je ne demanderai pas aux anciens de venir en avant, mais juste de rester à leur place aussi et de lire leur prière à celle que je vais faire. Que Dieu puisse nous remplir de cette compassion-là pour les personnes perdues dans notre ville et dans les environs de Hawkesbury. Pour les gens même qui fréquentent parfois notre église. Seigneur, change nos cœurs. Change nos cœurs. On parle d'évangélisation, mais on n'agit pas. Ça traîne sur nos agendas, puis on n'agit pas. On rencontre toutes les semaines des personnes qui s'en vont en enfer. Oui, Dieu est amour, mais Dieu est juste. Et si Dieu ne serait pas juste, bien, tout le monde irait au ciel. Ou tout le monde irait en enfer. Seigneur, que nos cœurs puissent être transformés. Il n'y a jamais trop tard. Aujourd'hui, c'est le temps. C'est le temps de changer. C'est le temps d'avancer. C'est le temps d'être en action. C'est le temps d'être touché, mais de ne pas rester là juste à pleurer, mais d'agir. Vous pouvez lever les têtes. Je vais terminer encore une fois avec. Je ne peux pas terminer sans dire quelques mots aux gens qui sont perdus. Et je ne connais pas le cœur de tout le monde ici. Je ne connais pas la profondeur du cœur de personne. Mais dans toutes les prédications, le Seigneur nous demande de parler, d'amener du salut. Alors la Bible dit, dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour mourir sur la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. » Mais qu'il est la vie éternelle. C'est là l'amour de Dieu. C'est là la compassion de Dieu. C'est là l'action qui a été prise par notre grand Dieu. C'est notre prière que vous détourniez du péché. Que vous veniez directement à Jésus-Christ. Jésus est maintenant assis à la droite du Père et on l'attend tous. On attend son retour. Donc, j'invite tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur ce matin de venir à lui par la foi. Le Seigneur Jésus va laver tous vos péchés, passé, présent et à venir. Il n'y a pas un péché au monde. Il n'y a pas un gros péché qui surpasse l'amour de Dieu. Le Seigneur Jésus lave vos péchés par son sang précieux et il vous donnera la vie éternelle. Pour nous, les chrétiens qui sommes sauvés, j'espère que ce passage-là a fait de quoi dans votre vie. J'espère que les paroles de ce chant-là, « Fais de moi une bénédiction », puissent réveiller un peu, brasser nos émotions. On a des fois plus d'émotions pour des pertes matérielles que pour la perte d'une âme. Ça ne devrait pas être comme ça. Même lorsqu'on nous fait du mal, le Seigneur dit de bénir. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. On veut penser, on veut agir, aimer comme toi, Seigneur. Père éternel, merci pour ce court temps ce matin. Puisses-tu nous bénir tous. Puisses-tu faire germer, grandir cette parole-là qui a été plantée en nous, en chacun de nous ce matin. Et pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, qu'ils puissent voir ton amour, qu'ils puissent voir que tu les aimes et que ton amour t'a poussé jusqu'à donner ton fils aimé, bien-aimé, à mourir sur la croix. C'est ça que le Seigneur Jésus a fait pour nous. C'est ça l'amour que tu nous as démontré. En Jésus, on prie. Amen.
Seigneur, nous te prions aussi de remplir le cœur de ton amour et de donner la force.